aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au Nigeria, plus de 140 personnes arrêtées et vont être jugées pour violence pendant le confinement. L'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie sont les pays les plus touchés par le Covid-19 sur le continent. Dans le monde, le bilan de la Chine s'alourdit brutalement avec près de 1300 décès supplémentaires. Près de 5000 morts en 24 heures aux États-Unis, c'est de loin le bilan quotidien le plus élevé dans le monde. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Nigeria, plus de 140 personnes ont été présentées devant un tribunal ce vendredi, accusées de meurtre, cambriolage et violence de rue pendant le confinement imposé pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus. Jacques Aristide.
Les suspects sont accusés d'avoir terrorisé des habitants et des automobilistes lors de vols à main armée dans l'état d'Ogun qui jouxte Lagos. D'après le porte-parole de la police Abimbola Oyeyemi, ces délinquants appartiennent à des gangs de rue et ont également violé l'ordre de confinement en se déplaçant sans autorisation. Ils sont maintenus en garde à vue dans l'attente d'une nouvelle audience du tribunal. Le Nigeria a imposé un confinement total à Lagos, la capitale économique, ainsi qu'à Abuja, la capitale fédérale. Des restrictions ont également été imposées dans les autres régions. La crainte d'une augmentation de la criminalité et d'émeutes est grande. Ces derniers jours, des habitants de Lagos et d'Ogun sont descendus dans les rues pour se défendre eux-mêmes. La Commission nationale des droits de l'homme a accusé les forces de sécurité d'avoir tué 18 personnes pour faire respecter les mesures de confinement. Au moins 442 cas d'infection par le coronavirus ont été répertoriés au Nigeria, dont 13 mortels.
Plus de 1800 cas de Covid-19 et près de 1000 morts ont été recensés en Afrique par le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le centre CDC Africa, 4352 personnes ont guéri de la maladie sur le continent. L'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc restent les pays les plus touchés, avec plus de 2000 cas dans chacun de ces pays. Au Mali, les autorités ont décidé de maintenir le second tour des élections législatives prévues ce dimanche, malgré la pandémie. 171 cas de Covid-19 ont été confirmés, dont 13 morts. Pendant ce temps, les scientifiques continuent de travailler sur le dépistage rapide. Des ingénieurs tunisiens ont indiqué avoir développé un outil d'intelligence artificielle en libre accès pour aider à diagnostiquer instantanément le nouveau coronavirus à partir de simples radiographies des poumons, ce qui pourrait accélérer le dépistage de la maladie du Covid-19 en Tunisie. Ce pays a plus de 820 cas de contamination, dont 37 décès. Plusieurs initiatives dans ce domaine ont été lancées dans le monde, notamment au Canada et en Chine, mais les concepteurs tunisiens soulignent ne pas avoir trouvé d'autres plateformes directement opérationnelles et accessibles à tous.
À Kano, la grande ville du nord du Nigeria, un centre d'isolement flambant neuf pourra bientôt accueillir les patients du Covid-19. Derrière cette initiative se trouve l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Deux immenses tentes d'environ 250 lits ont été érigées sur le stade de foot de la cité commerçante qui a vu naître le roi du ciment. Au Tchad, un obus est tombé accidentellement sur le domicile de Mahamat Saleh Harim, commandant et premier adjoint de la garde présidentielle et proche du président Idriss Déby Itno. Le bilan est de 4 morts, 2 femmes et 2 enfants et de 2 blessés. La maison se trouve en bordure de la base aérienne de Hadji Kosei à N'Djamena, la capitale, et à quelques mètres du quartier général de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet incident, a précisé Youssouf Tom, le procureur de la République qui s'est rendu sur place. Selon un officier de l'armée de l'air, un avion était en phase de décollage lorsqu'un obus s'est détaché. En RDC, au moins 11 personnes, majoritairement des enfants, sont décédées dans la nuit de jeudi à vendredi dans des inondations provoquées par des pluies diluviennes à Uvira, dans le sud Kivu. Le bilan est encore provisoire selon le maire de la ville et des centaines de maisons ont été détruites par les eaux des rivières sorties de leur lit. Des secouristes qui poursuivent les recherches pour retrouver des disparus ont pu sauver des personnes qui se sont réfugiées sur le toit de leurs habitations. Le ministre congolais des Affaires humanitaires, Steve Bikayi, fait état d'au minimum une vingtaine de morts enregistrées et de 400 habitations détruites. En Afrique du Sud, pas moins de 55 détenus et 25 gardiens de la prison d'East London dans le sud du pays ont été déclarés positifs au coronavirus en quelques jours. Souvent surpeuplées et insalubres, les prisons constituent l'un des nids favoris du Covid-19. L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par l'épidémie, avec plus de 2600 cas, dont 48 mortels. Toujours en Afrique du Sud, le dirigeant d'une mine a été arrêté et déféré aujourd'hui devant la justice pour avoir ordonné à ses employés de reprendre le travail en dépit du confinement. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il est encore temps au Moyen-Orient et en Afrique du Nord de saisir l'opportunité d'agir pour éviter le chaos. Selon l'organisation onusienne, plus de 111 000 cas du nouveau coronavirus et plus de 5 500 décès ont été enregistrés dans 22 pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. En Algérie, même les détenus de 30 établissements pénitentiaires sont mobilisés pour fabriquer des masques de protection et des produits médicaux pour enrayer la propagation du coronavirus, a indiqué le directeur général de l'administration pénitentiaire, Faisal Bourbala. Il a décidé d'ouvrir des ateliers de couture pour la confection de 200 000 masques par les prisonniers de 30 établissements pénitentiaires à travers le pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 145 673 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 2 182 740 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Le point avec Michel Joseph.
L'Europe totalise plus de 94 000 décès. L'Italie, pays européen le plus touché, suivi par l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Alors que les critiques s'accumulent à Paris, Londres et Washington, le bilan de la Chine s'alourdit brutalement après près de 1300 décès supplémentaires. La ville de Wuhan, où le virus est apparu fin 2019, a révisé à la hausse le nombre de victimes. L'Iran annonce 89 décès supplémentaires, un bilan inférieur à 100 morts pour le quatrième jour consécutif dans le pays le plus touché du Moyen-Orient. La Russie, avec plus de 32 000 cas, dont 4070 ces dernières 24 heures, a autorisé le traitement des patients avec l'hydroxychloroquine, dérivée de l'antipaludéen chloroquine, dont l'efficacité fait l'objet d'un débat mondial. Au moins 4,5 milliards de personnes dans 110 pays ou territoires sont forcées ou incitées à rester confinées chez elles.
Le Royaume-Uni a dénombré vendredi 847 morts supplémentaires, un bilan proche de celui de la veille, plus 861 morts, qui porte à 14 576 le nombre total de victimes du Covid-19 dans le pays. Le nombre de personnes testées positives a atteint au total 108 692, en augmentation de 5 599 par rapport à la veille, selon le ministre britannique de la santé. La barre des 30 000 morts du coronavirus a été franchie aux États-Unis pour près de 667 800 cas. Le pays a connu 4 491 décès supplémentaires en 24 heures. De loin, le bilan quotidien le plus élevé dans le monde. Nathalie Barge.
Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a prolongé le confinement jusqu'au 15 mai et à partir de ce soir, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics de cet État qui compte près d'un tiers des décès aux États-Unis. Les hospitalisations ralentissent toutefois au point que le gouvernement de New York envoie des respirateurs artificiels au New Jersey voisin, au Michigan et au Maryland. Monsieur Cuomo a dit travailler avec les gouverneurs de 5 autres États proches pour définir ensemble les conditions de la reprise économique. Le président Donald Trump a dévoilé hier son plan de relance en 3 étapes en fonction de la gravité de l'épidémie dans chaque État. Il a ainsi donné le coup d'envoi du redémarrage tout en laissant la barre aux gouverneurs des 50 États.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le dirigeant d'une mine en Afrique du Sud a été déféré devant le juge pour avoir ordonné à ses employés de reprendre le travail en dépit du confinement. À la tête des opérations du groupe Impala Platinum à Rustenburg, Mark Monroe a été remis en liberté sous caution. Les employés de la mine avaient repris le travail le 14 avril, a indiqué la police. L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, qui a fait fortune dans la cimenterie, est en train de monter un centre d'isolement à Keno, dans le nord du Nigeria. Créée fin février, la coalition du secteur privé contre le Covid-19, la CACOVID, pilotée par Dangote et le groupe bancaire nigérian Access Bank, rassemble une cinquantaine d'entreprises qui ont promis 57 millions de dollars pour le pays. Les détenus de 30 établissements pénitentiaires sont mobilisés en Algérie pour fabriquer 200 000 masques de protection et des produits médicaux, a indiqué le directeur général de l'administration carcérale, Faisal Bourbala. Dès la finalisation de la première phase, ils confectionneront des combinaisons de protection et 3 prisons seront chargées de fabriquer des cabines de désinfection.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Espoir de la lutte sénégalaise avec frappe, Moussa Diop a quitté les plages de Dakar où il s'entraîne habituellement fermé par le gouvernement et prépare à huis clos son prochain combat prévu en juin. Pour se protéger du coronavirus, chaque jour à 7h du matin, Moussa, qui a choisi son nom de lutteur, Seyin Diagne 2 en hommage à son père et que ses amis surnomment Kourias, quitte la Médina, quartier populaire du centre de Dakar, pour rejoindre la salle Bodymas, ouverte spécialement pour lui par son entraîneur Maguette Seydi. Abdominaux, traction, haltères, le poids lourd de 24 ans travaille sa condition en petit comité. Avant ici, il y avait d'autres lutteurs et d'autres gens qui s'entraînaient pour la forme. Mais actuellement, il n'y a que moi, mon frère et le coach, dit-il. Depuis l'instauration de l'état d'urgence mi-mars au Sénégal, où la barre des 300 cas de Covid-19 a été franchie avec 2 morts, beaucoup de choses ont changé, affirme son entraîneur, obligé de fermer sa salle au grand public. Qui doit être déclaré champion d'Espagne si la Liga devait s'arrêter là? L'entraîneur du Barça, Quique Setién, semble avoir son idée. Il serait logique que Barcelone, en tête de la Liga au classement figé, soit sacré champion d'Espagne si la saison devait s'arrêter définitivement en raison de la pandémie, estime l'entraîneur du Barça, Quique Setién. Le Barça est en tête avec 2 points d'avance sur le Real Madrid après la 27e journée. Évidemment, ce serait logique, mais ce pourrait être une autre équipe. Je n'aimerais pas être champion de cette manière, a répondu Setién à la radio Cadena Ser. J'aimerais revenir le plus vite possible pour éviter de causer le plus de dommages possible au football. Mais la réalité est que nous vivons un grave problème, a déclaré Setién. Et puis enfin, les footballeurs du championnat de Belgique vont-ils jouer masqués? C'est ce qu'envisage le virologue Marc Van Rant, un expert conseillant le gouvernement belge sur les mesures à prendre face au Covid-19. Une piste à envisager est le port de masque pour jouer au football, a indiqué au journal Le Soir Marc Van Rant. Bien sûr, il n'est pas question de masques chirurgicaux qui sont totalement inadaptés. Sur Internet, on trouve des masques anti-pollution qui peuvent être portés par des joueurs de football américain ou des cyclistes. Ils sont plus confortables, a-t-il précisé. Le championnat de Belgique est à l'arrêt, comme la plupart des ligues dans le monde, à cause de la pandémie du Covid-19. Le club professionnel belge devrait officialiser le 24 avril la fin de la saison actuelle. Le gouvernement du pays a interdit mardi les événements de masse jusqu'au 31 août, rendant probable un début de la saison prochaine à huis clos.
Merci Bagassé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Avec environ 35 milliards de francs CFA destinés annuellement au secteur de la santé, les États-Unis sont le plus grand partenaire bilatéral du Sénégal. Un partenariat stratégique qui est aujourd'hui renforcé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Sur VOA Afrique, le docteur Toulinabo Mushingi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau, revient sur les grands axes du soutien américain au Sénégal dans un entretien avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, la crise sanitaire du Covid-19 a mis sous tension les systèmes de santé des plus grandes puissances mondiales. Et dans ce contexte, des pays comme le Sénégal, qui sont moins bien équipés, paraissent vulnérables. Quel est l'apport des États-Unis pour lutter contre cette pandémie ici au Sénégal?
Vous savez bien que le centre que le Sénégal est en train d'utiliser maintenant, le centre des opérations d'urgence sanitaire, connu sous le nom de COUS, ça c'est un centre que nous avons construit et équipé. On l'avait inauguré avec le président Macky Sall en 2018. C'est le centre qui a été construit pour des exigences, des urgences comme celles que nous avons. Donc nous étions un peu en avance du temps, mais là, vous savez, ça vient de l'expérience de Ebola. Depuis ce temps-là, on a décidé d'investir au Sénégal, de travailler avec le Sénégal pour construire un centre d'opération d'urgence sanitaire qui a coûté à peu près 2 milliards de francs CFA.
À part le COUS qui est au cœur du système de riposte contre le Covid-19, quel autre soutien logistique les États-Unis ont apporté au Sénégal?
Toujours dans le cadre du département de défense, nous avons donné aux forces armées du Sénégal deux hôpitaux mobiles. Ces hôpitaux mobiles qui étaient destinés pour être déployés quand ils sont dans les forces de maintien de la paix, maintenant nous sommes en train d'utiliser un de ces hôpitaux à Touba. Comme vous le savez, dès qu'il y a eu le premier cas là-bas qui a contaminé plusieurs personnes, donc les militaires ont décidé de déployer un de ces hôpitaux là-bas, et c'est l'hôpital qui est en train d'être utilisé à Touba. Les deux hôpitaux, c'était une valeur d'à peu près 5 milliards de francs CFA.
Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pouvez-vous nous dire maintenant quels sont les autres volets du soutien américain au Sénégal dans le cadre de la riposte contre le Covid-19?
Pour l'agence CDC, le Centre de contrôle des maladies, le centre est basé à Atlanta, CDC. Nous avons trois experts basés ici et nous avons à peu près dépensé 160 millions pour l'équipement et le travail avec le COUS. Nous avons deux membres de mon staff qu'on a dépêchés à Touba. Nous avons formé depuis un certain temps à peu près 212 épidémiologistes qui sont mobilisés. Nous avons formé 724 comités de santé communautaires à travers le pays. Nous avons octroyé des kits de tests d'à peu près 60 millions de francs en CFA. Et enfin, nous travaillons avec le Laboratoire national de la santé publique basé à Thiès. Vous savez que ce laboratoire, c'est nous qui l'avons non seulement équipé, mais aussi nous payons les salaires de fonctionnaires. Et là, c'est avec un coût évalué à peu près 1,2 milliard de francs CFA.
Pour terminer, que dites-vous aux Sénégalais, en Wolof, bien sûr?
Nyo Bok Galgi. Hachendo Dorondo. On doit continuer à ramer ensemble et nous allons rester aux côtés des Sénégalais. Merci.
Son Excellence Dr Toulinabo Mushingi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau, VOA Afrique, vous remercie.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce le port obligatoire du masque à partir du 27 avril. Ces masques seront confectionnés avec du faso d'Anfani, fait à base du coton local. Et en guise de solidarité, les présidents du Faso et les membres du gouvernement vont céder leur salaire. De Ouagadougou, le reportage de Lamine Traoré.
Le gouvernement se donne 10 jours pour rendre les masques disponibles pour la population. Le porte-parole du gouvernement Rémi Dandjino à l'issue du Conseil des ministres.
Le Conseil est également instruit au regard de la situation qui a été présentée par le ministère de la Santé que les dispositions soient prises pour disponibiliser les masques et les cache-nez en quantité suffisante dans toute l'étendue du territoire afin que vous comptiez du lundi 27 avril 2020 le port du masque ou du cache-nez sera obligatoire sur toute l'étendue du territoire national.
Le gouvernement a annoncé récemment un fonds de lutte contre la pandémie. Et pour donner l'exemple de solidarité nationale, les membres de l'exécutif vont contribuer à ce fonds.
Le président du Faso donc cédera 6 mois de salaire. Le premier ministre cédera 4 mois de salaire.
Le porte-parole du gouvernement.
Les ministres d'État céderont 2 mois de salaire et tous les ministres devront céder 1 mois de salaire au titre donc de la lutte. La mobilisation des fonds pour la lutte contre la maladie de Covid.
Dans les rues de Ouagadougou, très vite, les mesures sont diversement appréciées. Les populations déjà confinées et n'ayant aucune activité se demandent où elles trouveront les moyens pour se procurer ces masques qui vont devenir désormais obligatoires.
En tant que des autorités, ils ont pris l'initiative de céder leur salaire. C'est un exemple qu'ils nous donnent. Le port de masque, je crois qu'avec ça, on peut vraiment endiguer la maladie.
Selon moi, je pense que le port du masque est important. Maintenant, le véritable problème est que pour avoir même les 200 francs pour acheter des masques, là, ça sera vraiment un problème. Je ne sais pas, ils vont organiser autre chose pour que les gens puissent avoir l'affaire aux masques.
C'est une bonne chose hein, qu'ils aient renoncé en tout cas à leur salaire. C'est un effort de guerre.
Lionel Bilgo est analyste politique, directeur Afrique de Timinis Media.
Mais je crois qu'on les attend plus dans les décisions stratégiques, mais surtout dans une meilleure communication quant à cette crise-là, qu'à un sacrifice personnel sur leur salaire. L'obligation du port du masque, est-ce que le gouvernement s'est assuré qu'il y a suffisamment de masques homologués disponibles dans les pharmacies pour l'ensemble de la population? Si ce sont les masques fabriqués en tissu localement, je crois que ces masques ne sont pas homologués. Il faut d'abord réfléchir à ce qu'il y ait suffisamment de masques dans les pharmacies pour l'ensemble de la population et que ces masques soient à prix social. Maintenant, effectivement, s'il y a besoin de fabriquer des masques localement, il faut s'assurer également que ces masques soient homologués et que ces masques protègent réellement.
Dans son bilan du 15 avril dressé hier, le gouvernement annonce 546 cas confirmés du coronavirus. Il indique par ailleurs 257 guérisons et 257 personnes sous traitement. 32 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie au Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
De la solidarité citoyenne autour de la riposte contre la pandémie du coronavirus au Togo. Pendant que les uns sensibilisent sur les gestes barrières et invitent la population à se conformer aux instructions officielles pour limiter la propagation du virus, d'autres mettent à la disposition des populations et des centres de santé des masques et des désinfectants. Reportage sur cette solidarité dans un centre de santé par notre correspondante Kaïl Osson.
Nous sommes à Nera, à une quarantaine de kilomètres à l'est de la ville de Lomé. Dans le centre hospitalier préfectoral d'Adido, un groupe de jeunes vient de faire un don de masques et de solutions hydroalcooliques. Un don inattendu, mais qui sera d'un grand recours. Kossi Agbokanzo, directeur de ce centre hospitalier.
Ce don nous est tellement utile. C'est du matériel qui protège le personnel. Donc, ce don vient pour nommer, parce que depuis que l'épidémie est arrivée, à part l'appui du gouvernement. C'est la première fois que de bonne volonté mettre du matériel en disposition. La lutte doit être citoyenne. Tu sais, l'État ne peut pas tout faire.
Dans un élan de solidarité, le collectif Ensemble contre le COVID-19 USA Togo est né. Il s'agit pour ces jeunes Togolais vivant aux États-Unis d'Amérique de soutenir les efforts du gouvernement togolais dans la riposte contre la pandémie du coronavirus en apportant ce qu'on pourrait appeler un effort de guerre. Akwete Abalo, porte-parole du collectif.
Avec quelques amis de la diaspora, on a mis nos efforts ensemble pour apporter notre aide à l'hôpital d'Anehor.
La pandémie du COVID-19 a bousculé les habitudes au CHP d'Adido Anehor, comme partout ailleurs. Des mesures préventives y sont prises, comme l'indique à VOA Afrique, Dr Elom Adam Leponsi, point focal réponse COVID-19 au CHP d'Anehor.
Déjà à l'entrée, on a mis des dispositifs de lavage de mains. Tous ceux qui entrent se lavent systématiquement les mains. Nous prenons aussi à l'entrée la température systématiquement à toute personne qui entre. Ça nous permet de voir ceux qui font la fièvre et de facilement les orienter. Et à part cela, notre service d'admission, on a essayé de respecter la distanciation. On a désengorgé l'admission, on a mis des tentes. Nous avons aussi réfectionné notre salle d'isolement. On ne sait jamais, en cas de suspicion de COVID-19, nous avons notre salle d'isolement où on met le patient.
Il est à noter qu'à ce jour, aucun cas de COVID-19 n'a été recensé dans la préfecture des Lacs. Kyle Lawson, de retour d'Anehor pour VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump menace de suspendre le Congrès parce que les législateurs n'ont pas approuvé les candidats qu'il a nommés à des postes de responsabilité, y compris celui qu'il a choisi pour diriger l'agence dont dépend la voix de l'Amérique. Un sujet de Steve Herman, le récit est de Lionel Gaïma.
J'ai un très grand pouvoir, a déclaré le président Donald Trump mercredi, faisant référence à l'article 2 de la Constitution américaine qui permet à un président, à des occasions extraordinaires, de suspendre l'une ou les deux chambres du Congrès.
Le Sénat devrait s'acquitter de son devoir et voter sur mes candidats ou ajourner officiellement pour que je puisse faire des nominations. Nous avons un grand nombre de personnes qui doivent entrer au gouvernement, et maintenant plus que jamais à cause du virus.
La Constitution exige que les candidats nommés à certains postes de responsabilité soient confirmés par un vote majoritaire au Sénat. Cependant, dans les cas où le Congrès n'est pas en session, le président peut procéder à une nomination temporaire qui expire si le candidat n'a pas été confirmé à la fin de la prochaine session plénière. Aucun président n'a jamais exercé le pouvoir spécifique de suspendre le Congrès, suivant l'article 2, section 3 de la Constitution. Durant son point de presse quotidien dans les jardins de la Maison Blanche, M. Trump a été clair.
Peut-être que cela n'a jamais été fait auparavant. Personne ne sait même si c'est le cas. Mais nous allons le faire. Nous avons besoin de gens ici pour cette crise et nous ne voulons plus de jeux politiques.
Le réalisateur de documentaire Michael Peck, que Trump a sélectionné pour diriger l'Agence américaine pour les médias internationaux, est l'un des 15 candidats en attente de confirmation par le Sénat. Le chef de l'exécutif américain impute aux démocrates la responsabilité de ces retards.
An example is Michael Peck, and he's been stuck in committee for 2 years, preventing us from managing.
La nomination de PAC a été bloquée pendant 2 ans, nous empêchant de gérer la voix de l'Amérique. Très important. Et si vous entendez ce qui sort de la voix de l'Amérique, c'est dégoûtant vis-à-vis de notre pays. Et Michael PAC, confirmé, ferait un excellent travail, mais il attend depuis 2 ans.
Le directeur de médias sociaux du président Trump, Dan Scavino, a accusé la VOA d'utiliser les fonds du contribuable américain pour diffuser la propagande chinoise. Il a cité à l'appui une vidéo reprise sur le compte Twitter de la VOA. Produite en fait par l'agence Associated Press, la vidéo montre un jeu de lumière lors de la réouverture de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de la pandémie du coronavirus. La Maison Blanche accuse aussi la VOA d'utiliser les statistiques chinoises sur le COVID-19, alors que la VOA recourt aux chiffres compilés par la célèbre université américaine Johns Hopkins. Dans une réponse mercredi soir, la directrice de la VOA a rejeté ses critiques présidentielles. Depuis 75 ans, la VOA poursuit sa mission de raconter l'histoire de l'Amérique à l'étranger et d'apporter des informations objectives et basées sur des faits à des endroits du monde qui n'y ont pas accès. Comme nous le disons depuis longtemps, nous exportons le premier amendement, a déclaré Amanda Bennett dans un communiqué. Lauréate du prestigieux prix Pulitzer du journalisme, Madame Bennett a été nommée à son poste il y a 4 ans sous l'administration de Barack Obama.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel Joseph, Lionel Gaïma et Jean-Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Avec vous, Henri Francis.